sommes entre Loire et Loin. Merci de nous écouter comme chaque samedi sur C2L et de nous regarder en vidéo sur les réseaux, sur notre page Facebook notamment. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nous avons eu de la chance, une chance inouïe. Ça faisait longtemps que nous voulions aller rendre visite à Francis Leloup, potier, un potier qui fait de la cuisson à la cendre, au feu de bois, à l'ancienne. Il ne fait qu'une seule cuisson par an. Et c'était la semaine dernière, juste au moment où nous sommes passés lui rendre visite à la Selle sur le Biais.
L'extérieur est ma maison, disait le poète René Char. Ça, je le sors pas comme ça de ma petite tête, soudain. C'est simplement Francis Leloup qui est là, qui le sort très naturellement et qui l'expérimente tous les jours. Francis, il est potier depuis 50 ans. Il se revendique potier rural. Et il est dans son magnifique univers à la Selle sur le Biais, au Couturier, très exactement. On a beaucoup de chance parce qu'on tombe exactement au moment de sa cuisson annuelle, la cuisson annuelle de toutes ses pièces, qu'il va vendre après sur les marchés durant toute l'année. Et puis on est venu pour.
Au four à bois, la cuisson.
Comment ? Vas-y, dis-le, Francis.
La cuisson au four à bois.
Ah voilà. Ah oui, ça, il y tient beaucoup. Hein. Ici, on est traditionnel et on est précis. Bon, ça s'est bien passé, cette cuisson à bois ?
Oui, oui, oui.
Ça fait combien de temps que tu cuis comme ça ?
Que je cuis au bois ?
Ouais.
Et depuis toujours.
Depuis toujours.
Depuis toujours, c'est le 1, 2, 3, 4, je ne sais plus comment, le quatrième four, je crois. Et on en a construit un cinquième cette année.
Ah bon ?
Oui.
Et il va être où ? Il est où ?
Il est plus loin, là-bas.
Alors, tu as eu envie qu'on filme en extérieur, devant ton jardin potager et devant tes arbres, devant ta forêt.
Un univers.
Ouais, parce que c'est de cet univers dont tu t'inspires pour créer tes poteries, c'est ça ?
Je m'en sers en tout cas pour les maillages.
C'est-à-dire ?
On va expliquer tout à l'heure peut-être.
Ah bah oui, tout à fait, oui, oui. Alors, dis-moi, c'est quoi tes... Francis Leloup, il est fort dans quoi ? C'est quoi ? Pourquoi on achète une poterie ? Je sais, moi.
Si.
Moi, je sais. C'est les bleus. Les bleus de Francis, ils sont uniques.
Ce sont des bleus de fer, hein, à l'oxyde de fer. C'est pas du tout des bleus de cobalt.
C'est toujours précis avec toi.
Précis, comment ça ?
Ben oui, on en avait déjà parlé. La céramique, c'est de l'alchimie, c'est de la technique, c'est quoi ? Raconte-nous.
La céramique, ben c'est d'abord faire un pot. Hein.
Oui, voilà.
C'est d'abord avoir de la terre, de la bonne argile. Nous, en terreux, on appelle ça de la terre. Mais c'est de l'argile, en fait. Et donc, de l'argile qui cuit à haute température, dans mon cas précis, qui cuit à 1320-1350. Et cette argile, on va la cuire brute, éventuellement, dans la mesure où c'est un four à bois. C'est le four qui va s'en charger, de modifier les couleurs, si tu veux, à la limite de l'émailler, ou on va l'émailler. Et alors là, c'est moi.
Ah bah oui, et voilà.
Donc, je parlais du jardin tout à l'heure, je vais utiliser des cendres de végétaux hein, pour faire mes émaux. Les cendres de végétaux et des roches broyées. Du sable de Fontainebleau, de la craie, mélangé avec des cendres de charme, par exemple, de chêne ou d'autres familles botaniques.
Et tu expérimentes ça depuis 50 ans.
Exactement, oui. Oui, oui.
Et tu as encore des découvertes à faire, des précisions ?
Bien sûr, par exemple, dans cette cuisson, on a essayé les cendres de prunellier. Le prunier sauvage.
Ouais.
Et tu verras tout à l'heure ce que ça donne.
Alors on y va tout de suite ?
Oh.
Ouais. On va voir ce que ça donne.
Alors, ici. Ça, c'est les algues de la Méditerranée. Ce sont des gens de la région qui ont une maison au bord de la Méditerranée qui m'ont ramené des algues. Qui s'intéressent à mes émaux aux cendres. Je les ai brûlés, difficilement, à cause du sel. Et puis, ça a donné ça.
C'est la première fois que tu essayais de brûler des algues, c'est ça ?
Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, mais j'avais déjà essayé une première fois. Mais c'est la première fois que je les essaie en... au-delà de, du pur essai, tu vois.
Et alors, tu parlais du prunelier, donc ça c'est prunelier. Et tu considères que ça a donné quoi ? Quelque chose de très blanc, c'est ça ?
Non. Celui-là est très blanc, mais on en a d'autres qui sont beaucoup plus bleus. Il y en a un, tiens, dans le four, qu'on verra tout à l'heure, qui est beaucoup plus bleu. Et il y en a d'autres, mais je ne sais pas trop où ils sont. Parce que c'est Louis qui marquait les... Attends, dans les bols peut-être. Tiens, des cendres de séquoia.
Des cendres de séquoia.
Des cendres d'orme.
Et alors...
Robinier-châtaignier. Un mélange de robinier-châtaignier.
Et donc, tu considères que ça donne quoi comme différence ? Tu veux dire que là...
Des cendres de figuier.
Tu veux dire que tu avais le même bol avec le même type d'émo passé à l'intérieur,
oui.
Ou des maillages passés à l'intérieur, et en fonction de... Comment tu as fait pour faire brûler ces arbres ou ces...
Eh bien, par exemple, le figuier, tu vois, là j'ai des cendres de figuier. Il s'est trouvé que j'ai coupé un figuier, un gros fruit figuier.
Ouais.
Donc, je l'ai fait sécher et je l'ai brûlé dans une cuisinière. Pur. C'est-à-dire que dans la cuisinière de l'atelier, tous les jours, on a brûlé du figuier. Mmh. Exclusivement du figuier. Donc j'ai obtenu une cendre de figuier et j'en ai fait un émail comme ça.
D'accord.
Et par exemple, le prunelier, c'est des paysans qui ont rasé un carré de prunelier sauvage. Tu vois, c'est les prunes sauvages. Et puis, ils les ont brûlés tous ensemble. Et je l'ai appris par hasard, c'est tout à fait par hasard. Et donc, je me suis précipité, je me suis dit, je n'ai jamais essayé les cendres de prunelier, bien entendu. Et il a plu juste après, enfin, juste, je les ai récupérés juste à temps. Et puis voilà.
Qu'est-ce que tu as mis avec tes cendres à chaque fois ?
Tout simplement de la craie, de la silice et un feldspath.
Un quoi ?
Un feldspath.
Un feldspath, c'est quoi ça ?
Un feldspath, c'est un... C'est un dérivé du granit.
On peut parler aussi quand même des décors. Viens ici, Francis. Ça, voilà, ça c'est du Leloup. C'est figuratif, ou des fois moins figuratif, mais toujours ça parle en fait de ce paysage gâtinais dans lequel Francis a décidé de vivre, voilà, de passer cette vie-là en tout cas.
Oui, alors, ce sont toujours des paysages, toujours un rapport avec la ruralité, disons. Hein. Toujours, je ne me vois pas en train de... Et jamais de personnage. Je ne me vois pas en train de faire des... Ni d'animaux, je ne me vois pas en train de faire des oiseaux ou des poissons ou des choses comme ça. Ce sont toujours de ce que je vois par la fenêtre. Ou plutôt quand je suis en extérieur, c'est-à-dire ce que je vois tout le temps.
Alors... Il y a des céramistes qui font des personnages, etc., des statues et tout. Non, alors là, Francis, lui, il faut que ce soit utilitaire, c'est ça.
Voilà, c'est de l'utilitaire idéologique, si j'ose dire.
Vas-y, raconte.
Non, pour l'idéologie, on verra plus tard. On en revient plutôt... Là-bas, il y a toutes des... On voit bien... Enfin, j'ai pas mes lunettes, donc je vois... Mais il doit y avoir les noms des cendres qui sont... écrit sur les bidons, je pense.
Super. Est-ce qu'on va voir le four maintenant ? Tu veux bien ?
En gros, on pourrait dire, à propos des cendres, quand on voit un champ, par exemple, de blé ou d'avoine, d'orge sous le vent, il plie comme ça. Hein. Et théoriquement, si le paysan n'a pas mis trop d'engrais, il tient debout. Il plie, il se redresse, il plie, il se redresse. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est la canne à pêche en fibre de verre. Hein. Donc, fibre de verre égale silice. Ça veut dire que si j'emploie des cendres de blé, de paille de blé, où j'aurai toujours le squelette de mon émail, j'aurai toujours de la silice dedans. Par contre, le gros chêne, il n'aime pas le vent. Hein. S'il vient du vent, en général, c'est patatrac par terre ou il casse. Ou... Si j'emploie des cendres de chêne, hein, j'aurai pas le squelette de mon émail, j'aurai pas de silice. Donc je serai obligé de la chercher ailleurs.
Voilà, moi je prends ça. La première fois que j'ai rencontré Francis, il y a 25 ans environ, je suis tombée là-dessus, je suis tombée... Voilà, j'ai trouvé ça magique. C'est pas magique du tout, c'est super technique en fait comme truc. Ça s'appelle une montre, raconte.
Oui, on appelle ça des montres fusibles. C'est des témoins de température. Ce sont des petits bâtonnets qui représentent une formule d'émail hein, donnée. Et de, on voit bien la progression, là, de montre en montre, la silice augmente. Donc la montre suivante est plus réfractaire que la précédente. On voit bien la progression, 1100, 1200, 1250, 1280, 1300, 1320, 1350. Et donc à cette température, la 1000 s'est complètement liquéfiée, à tel point qu'elle est sortie de sa boîte. Enfin, donc je les place avec un peu de pente au départ, comme ça, là. Juste un petit peu de pente dans un bout de terre crue. Et quand je mure le four, je laisse des regards. Donc on voit les batteries de montre comme ça. À partir de 800 degrés, bon, c'est tout rouge dans le four. On voit les pots, on voit les montres. Et donc, on les voit progressivement quand on approche de la température donnée qui commence à se plier comme ça. Et quand on a une montre comme ça, ben on dit... couché, hein, on dit la montre est couchée. Et quand je vois ça, c'est moi qui peux aller me coucher.
Hein. Voilà, en l'occurrence, Francis, cette cuisson, elle a mis combien de temps?
On a mis combien de temps? J'ai commencé à... Hein
ouais. Alors, on précisera, on a un petit rendez-vous dans une juste après... On va rencontrer la jolie voix féminine que vous entendez teinter derrière nous. C'est Héloïse. On va reparler d'Héloïse. Alors, 19h, c'est-à-dire qu'il faut le faire monter en température, ce four.
En gros, j'ai commencé à quelle heure j'ai commencé? 5h le vendredi soir, hein, vendredi de la semaine dernière. Oui. Donc j'ai commencé avec du bois de 33, hein, du bois ordinaire de 33, jusque vers minuit à peu près. À minuit, on l'a bourré avec du très gros bois, ce qu'on appelle les alandiers derrière. Et puis, j'ai dormi quelques heures. Et à 4h du matin, j'ai attaqué sur ce qui restait de braise, un tout petit peu de braise, avec du bois de 50.
Dis-moi Francis, ce qui veut dire que pour être potier, il faut être forestier aussi?
Il faut être botaniste, il faut être géologue, il faut être bûcheron éventuellement, il faut tout faire.
Il y a combien de pièces là-dedans?
Il faut être commerçant, mais alors là ça ne marche pas. Là.
Oui, il est un peu moins fort de ce côté-là, mais heureusement vous verrez, tout à l'heure on parlera d'un atout charme.
La formation a raté.
Il y a combien de pièces dans ce four?
Environ 300, 350.
T'es content du résultat?
Oui, chaque résultat, il faut le prendre comme il est. Il y a des belles pièces, il y a des pièces moins belles, il y a des pièces qui ont collé. Chaque résultat est différent en fonction de, comme je te disais tout à l'heure, de la pression atmosphérique, de l'atmosphère du four pendant la cuisson, oxydante, réductrice, etc.
Oui, tu parlais du ciel, que ça avait une grande importance.
Oui, parce que le ciel, on ne commande pas le ciel, on ne commande pas la pression atmosphérique. Hein. Ouais. On a fait une cuisson par très haute pression, je crois qu'il faisait 1030 hectopascal, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est très haute pression. Et donc, c'était très oxydant, ça ne pouvait pas être réducteur, naturellement. Alors que tu fais une cuisson, alors que tu es à 990 hectopascal ou 980, tu vas être réducteur. Parce que il pleut, tu as du vent,
Bon.
Donc le tirage est moins bon.
Bon, alors on va s'arrêter là pour l'instant. Et on va passer à une belle histoire, c'est celle d'Héloïse. En fait, Francis, il pensait peut-être arrêter à un moment donné son activité avec tout son savoir-faire, qui s'arrête là. Et puis il a rencontré une jeune femme qui a eu très envie d'apprendre la poterie à ses côtés. Et ils s'entendent très bien. Et c'est ce qu'on va vous raconter la prochaine fois. Ici, une nouvelle histoire au couturier à la selle sur le biais chez Leloup.
C2L Radio.
www.c2l-radio.fr.
Amis d'entre Loire et Loin, nous sommes toujours au couturier à la Selle sur le Biais. C'est en fait voilà un reportage en deux parties parce que ça le mérite bien. Nous sommes chez le potier Francis Leloup et à mes côtés, il y a Héloïse Pierre-Emmanuel. Alors Héloïse, vous ne la connaissez pas, mais vous connaissez ses travaux de d'artiste peintre, dessinatrice. Si vous avez vu l'une de nos pastilles, c'était, je crois, au mois de juillet, à Châtillon-Coligny, au grenier à Sel. C'est oui, ça, exactement. Héloïse?
Oui.
Bon, alors pourquoi? Alors on parle de ça, d'une dessinatrice, peintre, et soudain on se retrouve ici chez Francis Leloup avec une potière. C'est quoi cette histoire?
C'est quoi cette histoire? Eh bien, j'ai rencontré Francis en mars dernier sur un de ses marchés, et puis je crois que je suis arrivée un petit peu comme une... J'étais complètement bouleversée, étourdie.
T'étais bouleversée?
Ah oui, oui, j'étais survoltée de... Parce que, bon, je pense que la poterie ou la céramique m'a... Du moins, la cuisson bois, j'en avais beaucoup entendu parler, et ça me... J'étais émue de découvrir un potier qui cuise au bois. Et j'étais très touchée par les couleurs.
Alors, il faut dire quand même que toi, t'es très touchée par la nature. Ce que propose Héloïse quand elle dessine ou quand elle peint, c'est justement, c'est les arbres. Et ici, on est chez un amoureux de la nature.
Voilà. Donc, tout de suite, on s'est entendu sur tant et tant de sujets. Et on pouvait échanger des heures sans s'arrêter. Enfin, moi, j'apprenais, je buvais. Enfin, c'était déjà. Enfin, voilà, la rencontre ouvrait déjà sur ce qu'on pourrait faire.
Alors, ça fait 3 mois que tu tournes.
Ça fait 3 mois. Alors, on a commencé, en fait, pas par le tournage, parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout cuire. J'avais cuit une première fois dans un four qui a été amené par une potière de la Borne aux tanneries, où je travaille.
Deux minutes, ouais. Voilà. Héloïse, elle est enseignante aux tanneries. Ouais. C'est pour les enfants, c'est ça?
Le jeune public, voilà. Donc les enfants avaient fait des pièces et Laurence Blasco Moriocourt, qui est une potière de la Borne, était venue avec son four phénix aux tanneries. Et donc à la suite de cette cuisson, je suis revenue voir Francis en lui racontant l'histoire, c'était extraordinaire, j'aimerais cuire de nouveau, œuvrons ensemble, et Francis était bien d'accord. Donc on a construit un four assez similaire à celui qui est venu aux tanneries.
Donc il est plus petit, il est différent de celui qu'on a vu.
Ah oui, il est plus petit que celui-là, oui, ouais. Oui. Oui, il est beaucoup plus petit, il permet de cuire dans un temps plus réduit.
Mais moins de pièces, du coup.
Moins de pièces, bien sûr.
D'accord. Ouais. Francis, oui. Tu disais que tu pensais pas rencontrer quelqu'un avec qui tu t'entendrais.
Oui, bien sûr, parce que j'ai un mauvais caractère et j'ai des idées bien particulières sur tout. Hein. Et donc, ça me paraissait impossible qu'on puisse travailler ensemble.
Et en même temps... Tu aspirais à pouvoir transmettre ton savoir?
Ah, si quelqu'un d'autre était venu et avec qui je me sois senti absolument
en harmonie,
oui. Ouais. Oui, bien sûr.
Il y a des gens, c'est après moi le déluge. Hein.
Oui, bien sûr, oui, aussi. Oui.
Tu m'as dit que quand même c'était une aspiration qui te enfin que tu appelais ça de tes vœux, enfin
qu'il y avait eu secrètement, tu espérais
que quelqu'un arrive.
Oui, bien sûr. À chaque fois que j'ai rencontré un potier, une potière, je me suis demandé mais est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, parce que ça aurait été beaucoup mieux de travailler à deux que de travailler tout seul. Quand on travaille tout seul, on a tendance à, au bout d'un certain temps, à dire « bon, ça va bien, je vais aller me promener en forêt, je vais faire autre chose, puis après moi, la fin du monde », comme tu disais tout à l'heure.
Est-ce que Héloïse t'a apporté de nouvelles idées, comme on a vu tout à l'heure que Francis est toujours en train d'expérimenter, tiens, je vais essayer de brûler tel bois, mettre telle cendre, etc. Est-ce qu'Héloïse t'a proposé des nouvelles choses ?
Elle est très perfectionniste et donc elle est très dure hein, avec moi.
Oui, ça c'est bien ça, Francis Leloup qui trouve quelqu'un de très dur avec lui. Oui, tu dis qu'en fait toi t'es pas perfectionniste, j'en reviens pas.
Je ne suis pas perfectionniste dans la mesure où je suis un potier rural et dans la nature et tout. Il n'y a pas de la perfection absolue enfin. À part, je sais pas, la symétrie chez les sapins, et encore, j'en doute.
Bon, alors, c'est quoi ton esprit de perfection comment ça s'illustre ?
Non, mais je suis là aussi pour m'en défaire, parce que ah oui, c'est un enfer. Mais Francis a raison, la perfection n'est pas de ce monde. Et puis, c'était devenu c'est un piège quand on est... Enfin, c'était un défaut chez moi. C'était en partie un défaut, je pense, ce perfectionnisme. Ça m'empêchait de m'exprimer librement, ça m'empêchait une spontanéité... Enfin, j'étais empêchée, je suis toujours un peu empêchée. Je m'empêche. Donc c'est bien. C'est pour moi la rencontre avec Francis et l'apprentissage de la poterie, c'est aussi apprendre l'humilité, apprendre que voilà, on fait avec nos moyens d'humains et et que les défauts ont leur charme.
Et puis on fait avec les rencontres de matière, comme tu le disais. Il y a un arbre qui tombe, on saute dessus et on expérimente de nouvelles choses.
Oui, oui, oui. Les dons de la nature,
ouais,
ouais.
C'est ça.
Toujours.
Ouais. Donc ça rentre en totale harmonie avec ce que tu fais artistiquement par le dessin.
Oui, 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 tout à fait.
Quand est-ce qu'on te voit faire une autre exposition ? Ça serait où ?
Eh bien, il va y avoir au Grenier à Sel, en mars, une exposition, en même temps que le Printemps des Poètes, autour du livre d'artiste, à laquelle je participerai avec d'autres artistes. C'est une exposition collective, en mars 2023.
Et qu'en penses-tu vendre tes propres poteries ?
J'ai le temps, je crois. Je me donne le temps de découvrir ce que je peux apporter.
Tu sais que tu as 50 ans devant toi, parce que Francis, elle a 50 ans de poterie, lui aussi. Tu as 50 ans, hein, encore.
Oui, oui, oui. Ouais. Mais on est... Comment dire ? C'est une vie de recherche, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans la poterie, c'est des expérimentations, des recherches. Et dès que je rencontre un ou une nouvelle potière ou un potier qui cuise au bois, c'est le même, c'est cette même simplicité et ferveur pour les découvertes qui se font de cuisson en cuisson et sans que rien ne soit écrit d'avance. Ouais.
Alors, vous savez quoi ? Ce bel être de poésie, eh bien justement, a un papy poète. C'est Pierre-Emmanuel, c'est
oui,
ça ?
C'est lui que je...
Raconte-nous.
Mon nom. Eh bien, je ne l'ai pas connu. Je suis née après qu'il quitte cette terre, après avoir vécu très, très dignement, très poétiquement, très, avec beaucoup de grandeur. C'était vraiment un être remarquable.
Et donc, il avait un ami, au moins un poète gâtinais.
Eh bien oui, il faisait... Alors, c'est ça. Apparemment, il connaissait bien Patrice de la Tour du Pin. Ils étaient tous les deux des poètes qui ont été...
Poètes chrétiens.
Exactement, voilà, on dit des poètes chrétiens, ouais.
C'est beau, non ? Ça vous plaît comme histoire, Monsieur Weber ? Ben, j'espère qu'on en trouvera d'autres, mais celle-ci, tu sais, elle est... Alors, où peut-on acheter les poteries de Francis ?
Ici.
Ici, c'est vrai, t'acceptes que les gens viennent ici t'enquiquiner ?
Oui. Oui. Ils seront bien reçus.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est bien reçus ici. Alors, vous êtes au couturier. On va vous mettre le numéro de téléphone quelque part sur l'écran. Monsieur Weber, vous savez faire ça ? C'est dingue.
À la Maison des métiers d'art de Ferrières-en-Gâtinais aussi.
Ah oui, tu fais partie de la route des métiers d'art.
Absolument, oui.
Et il n'y en a pas beaucoup, celle sur le biais, dans notre coin, dans ce coin-là du Curtinien, tu es le seul.
Non, à la celle sur le biais, il y a Éric, Pierre et Natacha. Oui.
Non, mais au niveau des potiers, tu es le seul. Hein.
Eux aussi font de la terre. Hein.
C'est pas pareil.
Oui, bien sûr.
C'est plus difficile pour boire le café quand même, ce qu'ils font.
Oui, d'accord. Mais sinon, actuellement même, en ce moment même, à la Maison des métiers d'art, il y a une expo.
En ce moment, tu as une expo ?
Oui, en ce moment même.
Havana. Lindas son tus calles, bello es tu mar, Habana. A ti llega mi canto como gemir de violines que solo tocan. Para ti.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur ces deux ailes et de nous suivre sur les réseaux, sur notre page Facebook notamment. Vous nous avez souvent vus dans cette émission à la médiathèque de Lame, au Paty, à Montargis, ou encore à la médiathèque de Chalette, car ce sont de vrais lieux de vie culturelle qui proposent bien plus que le simple emprunt de livres ou de CD. Nous n'étions pas encore allés faire un tour à la médiathèque d'Amilly. Et pourtant, il s'y passe également beaucoup de choses. Alors, eh ben, allons-y. Un rendez-vous à la médiathèque d'Amilly, à deux pas de la mairie.
C'est bon ? Ah bah c'est bon. Allez, on y va.
Il n'y a pas de clap.
Non, il n'y a pas de clap. Vas-y, c'est Monsieur Cinéma, il voudrait un clap. Amis d'autres Loire-et-Loire, vous connaissez notre passion pour les médiathèques. Alors, il était temps vraiment qu'on vienne ici dans cette médiathèque que personnellement j'aime beaucoup, qui est la médiathèque d'Amilly. Mais il fallait encore que Émilie et Alexandre soient disponibles et ce sont deux stars. Alors, on a mis quelques temps à trouver le bon rendez-vous. En tout cas, on est là, on est bien content de vous rencontrer. Émilie, Alexandre, vous êtes les piliers de cette médiathèque qui a été ouverte en 2011.
Ouais, 2011. Donc on a fêté nos 10 ans l'an dernier. Alors on les a fêtés sans les fêter à cause du Covid. Mais on va se rattraper. On a plein de choses de prévues pour l'an prochain. Et on est très occupés parce qu'il se passe toujours des tas de choses à la médiathèque d'Amilly. Donc voilà, c'est tout un projet qui dure depuis plus de 10 ans et qui continue à être enthousiasmant chaque année.
D'accord, ouais, parce qu'ici à Amilly, on fait pas que lire ou emprunter des livres, on emprunte aussi des DVD et des CD.
Tout à fait, on a un grand rayon de CD, de DVD, et on peut donc les emprunter, on peut les écouter sur place, et même encore mieux, on propose de la musique en vrai et du cinéma en vrai, puisqu'on a un auditorium de 120 places, donc régulièrement. Tous les mois, il y a des projections de films et puis régulièrement des jolis concerts dans cette salle.
Voilà, Alexandre, c'est justement celui qui a mis en place tout le rayon DVD et CD à la base. T'es monsieur cinéma, monsieur musique ici.
Oui, j'essaie. C'est vrai qu'au départ, on était dans une petite bibliothèque du bourg. Hein. Pour ceux qui connaissaient la bibliothèque avant, il n'y avait donc pas de CD, pas de DVD. Donc du coup, il a fallu partir de zéro et créer un fonds et donc pouvoir proposer de tout au public avec notre spécialité de musique baroque, mais pas que.
Ah ouais, d'accord. On reste quand même sur l'optique, l'objectif d'Amilly de proposer du baroque.
L'intérêt, c'est d'être en cohérence aussi avec le projet de la ville. Et du coup, on a effectivement un grand fonds de musique baroque qui est assez exceptionnel sur le nombre de documents. Et alors, il faut savoir aussi que la musique baroque, c'est une musique qui est très vivante. Hein, c'est de la musique ancienne, mais qui est jouée beaucoup par de jeunes musiciens. Donc, il y a régulièrement des nouvelles productions qui sortent, des choses très bien. Et on essaye d'être en parallèle avec la programmation de la saison musicale de la ville aussi.
Je crois que dernièrement, il y a eu William Christie qui est passé ici.
Oui. Il y a une quinzaine de jours.
C'est énorme, quoi.
Il y aura pour Noël, la semaine prochaine, quelque chose aussi de très bien. Donc vraiment, ça vaut le coup de venir. On pense souvent que les concerts de musique baroque sont pour un public plutôt connaisseur, alors qu'en fait, il y a des choses à écouter de tout type. Et puis chez nous, il y a aussi de la musique plus contemporaine à écouter, puisque tous les ans, Alexandre fait venir au moins un artiste sous un format de concert-rencontre qui dure une heure, qui est en acoustique.
Alors, stop, j'ai arrêté Émilie. Parce que tout à l'heure, j'ai fait exprès de faire la sourde oreille quand justement Alexandre commençait à nous parler de tout ce qui se passe dans l'auditorium. Parce qu'ici, donc, il y a un étage, etc., un joli petit salon, comme vous pouvez le voir, un étage encore en dessous pour tout ce qui est jeunesse, c'est ça. Mais il y a aussi cet auditorium et c'est à votre équipe de proposer une programmation pour l'auditorium, c'est ça ?
Oui, on a une liberté avec un budget alloué par la mairie de proposer des activités dans cet auditorium et qui vont être absolument de toute nature. Déjà en musique et cinéma, comme Alex le disait, parce qu'on est très bien équipé en termes de son, mais aussi du spectacle vivant. Donc il y a du théâtre, il y a des lectures, il y a vraiment énormément de choses possibles dans ce format de salle qui est très intime comme le reste de la médiathèque. Et puis, il y a aussi le jardin, que tu n'as pas cité, qui est aussi un des... Oui, il y a un jardin qui fait partie des atouts un peu secrets de la médiathèque. Donc, tu regarderas par la fenêtre tout à l'heure. Il y a un jardin clos, une sorte de jardin de curé bibliothécaire, où on fait des lectures, des siestes musicales pendant l'été. Voilà, on s'amuse beaucoup.
Des siestes musicales aussi ?
Oui, tout à fait, des siestes musicales. Alors en fait, il faut vraiment venir, c'est pendant tout l'été, tous les après-midi d'ouverture. Il y a des chaises longues, des parasols, et il y a de la musique. Je prépare des playlists qui durent à peu près 55 minutes et qui tournent en continu les après-midi. Une playlist différente chaque semaine et des musiques très variées, mais propices à la détente. Donc, somnoler, s'endormir, mais aussi bouquiner. Et donc, ça, c'est tout l'été. Notre jardin, il est très, très fleuri. Il y a des arbres. C'est vraiment un petit moment de repos, une petite parenthèse détente qui est accessible à tous. Donc, il faut venir absolument à ça.
Il y a quelques temps, je crois, Monsieur Weber, vous nous disiez justement que ces médiathèques, elles deviennent des vrais lieux de vie. En fait, on est passé doucement de la maison des jeunes et de la culture à la médiathèque qui, après, est revenue justement sur cette offre culturelle globale, en fait.
Oui, en fait, on a des gens qui viennent tous les jours lire la presse, qui viennent consulter les ordinateurs, qui sont dans un lieu qui leur permet, ce qui est très loin de juste emprunter des CD, des DVD ou de la musique. On peut s'y retrouver, on peut y travailler quand on est collégien, notamment, on en a beaucoup. On a des espaces de salon, beaucoup plus que des espaces de travail, parce que l'idée, c'est un lieu intime, convivial, qui est ouvert à tous. On a des gens qui ne sont pas inscrits, qui viennent juste pour le plaisir d'être ici, pour le plaisir de discuter avec l'équipe aussi, parce que ça fait partie du métier. Quand on est passeur de connaissances et de savoir, on est aussi là pour être un lieu d'accueil et de, pas de discussion, évidemment. On n'est pas au comptoir, mais c'est un peu cette idée d'être un lieu où les gens nous connaissent par nos prénoms, viennent aussi parce qu'ils nous connaissent, et notamment dans les animations, ça se ressent. C'est-à-dire que les gens viennent parfois moins pour la programmation que parce que ça se passe à la médiathèque d'Amilly et qu'ils ont commencé à prendre goût à ça et peut-être l'assurance que ce qu'ils vont y trouver aura toujours un intérêt.
Alors, à ce que j'ai compris, l'équipe ici, c'est une équipe qui existe, pour ainsi dire, depuis la genèse du projet, qui est très stable. Donc, il y a de la barbe blanche et tout. On vient d'apprendre que c'est une équipe foncièrement sympathique. Voilà, deuxième info.
On fait notre promo quand même, on est un petit peu là pour ça.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le droit de parler dans une bibliothèque aussi. Ça, ouais. C'est quelque chose d'un peu...
Je dois t'avouer que ça nous est arrivé que des étudiants nous demandent de nous taire.
C'est vrai. Ouais. Mais dis donc, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger ?
Alors si, il y a normalement une machine à café, mais qui est cassée. Donc ça va pas tarder à revenir. Alors on a milité pour un bar ici, mais bon, je crois que ça passera jamais. Mais écoute, tout a une limite, hein. C'est normal.
On a une idée de bar à cocktail, mais ouais. Ça n'a pas été validé.
On a des livres sur ça, ouais. Si tu veux. On peut se débrouiller très très bien. On a plein de talents, en fait. Quand on est bibliothécaire, on fait plein de métiers différents.
En fait, au niveau de la programmation, je me dis que c'est de là, et puis les cinq qui sont derrière, vous êtes sept en tout, c'est ça l'équipe ? Vous êtes cinq en tout.
Ouais. Et puis chacun est partie prenante dans toutes les activités de la médiathèque. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas ici avec nous font aussi. Donc Sylvaine, qui s'occupe de tout l'espace en bas de la jeunesse, propose plusieurs spectacles dans l'année, propose plein d'accueils de classe, de groupes. Elle travaille beaucoup avec tous les partenaires de la ville d'Amilly et d'ailleurs. Camille s'occupe de l'accueil des stagiaires. C'est le premier visage qu'on voit quand on entre dans la médiathèque. Donc c'est particulièrement important. Et puis Bastien, qui s'occupe de la BD chez nous, va proposer donc des choses autour de la bande dessinée, mais aussi des soirées jeux de rôle, des journées avec la ludothèque d'Amilly, avec qui on travaille. Voilà, enfin ça va un peu dans tous les sens, puisque l'idée c'est que quand on veut s'amuser dans son travail, il faut que chacun participe à toutes les actions. Et c'est comme ça on trouve ici que ça fonctionne. Et que ça fonctionne bien.
Bon, alors je me demandais, c'est quoi qui en ressort ? Il y a quand même, au bout du compte, une tonalité au niveau de la programmation. C'est pas élitiste, c'est pas non plus trop populaire. C'est quoi ici la programmation ?
Alors, l'idée, effectivement, c'est on essaye quand même depuis pas mal d'années de travailler là-dessus. Il y a quand même une couleur, si on veut, quand même de programmation sur à peu près tout ce qu'on propose, ce qui fait que, comme disait Émilie, on a un public qui nous suit aussi presque aveuglément. C'est que ça va lui plaire. Et l'idée, alors non, c'est pas élitiste. Le terme populaire, c'est pas non plus le plus adapté. Ouais. Le but, en fait, c'est de rendre les choses accessibles, en fait. Donc, faut être vraiment très, très exigeant et ambitieux dans ce qu'on propose, ouais. Mais vraiment le rendre accessible. Et ce qui fait que La même chose dans un autre lieu rencontrerait peut-être moins son public. Ici, les gens sont pas intimidés, ils savent qu'ils vont être à leur place et qu'ils vont pouvoir prendre quelque chose et que on leur apporte en toute simplicité, mais vraiment faut avec quand même une exigence et ça fonctionne.
Dis donc, j'ai trouvé un truc que vous faites pas.
Vas-y.
L'artothèque.
On adore les défis.
Oui, l'artothèque, vous faites pas.
Oui, c'est vrai. On y avait pensé il y a longtemps.
On a pensé à ça. On a pensé aussi à du prêt d'instruments. Alors, on a quand même une grénothèque.
Hein. Oui, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça.
Déjà
oui.
Pas mal. Non, oui, bah si.
Des échanges de semences. C'est quand même pas rien.
T'as réussi à le placer. Je te félicite.
Tu mettras un petit rectangle blanc sur cette pastille spécifiquement, Monsieur Weber.
Trop longtemps. Donc l'artothèque, pas encore, mais on a quand même un très gros rayon d'art, d'art contemporain, évidemment, pour coller aussi avec la programmation de la ville. Mais bon, après, l'espace est limité. Donc si tu peux aussi œuvrer pour que la médiathèque s'agrandisse, voilà. Ça, on est pour aussi. Tu y penseras ?
Mais ouais, j'ai pas encore beaucoup de pouvoir à Amilly, mais bon. Voilà, on va se balader un petit peu dans les rayons avec Monsieur Weber. Et puis alors voilà, on va peut-être... Allez, dis-nous, Amilly, challenge, on veut pas parler de tous les... Où est-ce qu'on trouve le programme ?
Là, c'est le programme que je suis en train de rédiger. Ne montre pas l'intérieur, c'est pas terminé.
Voilà.
Donc, il va sortir dans quelques jours. Pour l'année à venir, alors, il va y avoir quelque chose d'assez nouveau depuis l'an dernier. C'est tout un cycle de discussion qui va se mettre en place.
C'est bien.
La première qu'on ait faite, c'était il y a quelques semaines, avec deux intervenantes qui parlaient de la question des enfants face aux écrans. Voilà, ce que ça peut faire sur le cerveau d'un enfant d'utiliser les écrans trop tôt, les questions de développement social, de développement même physique, etc. Et c'était fait donc par une enseignante qui vient ici en tant qu'adhérente, et puis par Laurie, qui travaille à l'espace familial d'Amilly, qui a abordé ce sujet et sous la forme d'une discussion. Et donc, ces discussions, elles vont se reproduire l'année prochaine sur des sujets très variés. Donc on va commencer en janvier par une discussion autour d'un film qui s'appelle Les Pépites, qui parle de l'itinéraire d'un couple qui s'appelle Les Deux Palières et qui en fait a monté une association au Cambodge, qui est une association humanitaire qui est devenue une association complètement pédagogique et inclusive. L'idée, c'était de sortir des enfants des décharges là-bas et de les éduquer. Et ils sont allés jusqu'à des formations professionnelles, etc. Il y a derrière une histoire de couple, de parcours de vie qui est absolument formidable, dont on va parler. Il y aura aussi une rencontre autour de l'univers du manga avec le Daruma Shop de Montargis. Il y aura une rencontre autour des tissus avec une couturière d'Amilly. L'idée, c'est vraiment d'inclure les acteurs du territoire pour les faire intervenir dans le lieu de vie qu'est la médiathèque. Donc on va parler de la façon de découvrir les tissus en les goûtant, en les sentant, en les touchant, voilà, avec tous les sens possibles.
Alors ça va plaire aux bonnes femmes, parce que tu sais, il paraît qu'il y a une phobie, en fait, une maladie mentale spécifique aux femmes, qui est de l'obsession de toucher les tissus. Et ça peut tourner à la maladie mentale, figure-toi. Tu vois, moi des fois, en allant au marché Saint-Pierre, je me demandais si je ne versais pas vers le du côté sombre de obscur de là.
Non, oui, bah, tu vois, donc on parle on parle à la ménagère de moins de 50 ans, tu sais.
Non plus,
c'est ça.
Non mais ça c'est passionnant, ces histoires de discussion, ça marche bien, je pense. Hein,
oui, parce que il y a quand même un besoin de communiquer et puis d'être dans le réel de l'actualité. Et donc voilà, on va multiplier ces rencontres-là.
Et puis en plus, ça coûte pas cher.
Bah, ça a son intérêt.
Ah, aussi. Non, bah oui.
Il faut pas se leurrer, hein. Et puis après, il y a d'autres choses. Il y a plein de rendez-vous quotidiens. Il y aura du cinéma, il y aura des rencontres, il y aura des lectures, des choses pour les petits, pour les grands. L'idée, c'est d'arriver à toucher tous les publics, en fait, vraiment des tout petits. Donc, on fait des lectures, par exemple, pour les bébés, jusqu'à des accueils de cinéma pour des maisons de retraite. Donc là, tu parcours absolument tous les types de populations.
Vous avez une belle affiche en ce moment concernant vos cycles cinéma. C'est Louise Brooke.
Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'on a passé le cycle s'intitule « Le cinéma créé à la femme ». Et donc, le premier film, celui du mois de septembre, c'était le film « Loulou » de Pabst que j'ai passé ici. Et donc, il y en a encore un... vendredi prochain, dont je ne peux pas te donner le titre là, parce que c'est diffusé à l'extérieur. Si, je l'ai choisi, mais en fait, pour des questions de droit, je ne peux pas. Donc si, je l'ai choisi.
Il sera également un carré blanc.
C'est un très beau film avec Ava Gardner et James Mason, donc ceux qui connaissent, voilà. Et je peux annoncer le thème du prochain cycle, par contre, sur janvier, février, mars, ce sera sur la figure du samouraï. Mais le samouraï, pas uniquement dans sa figure connue du Japon médiéval, mais le samouraï décliné sous différentes formes. D'accord. La figure du personnage solitaire.
Comment c'est le film ? Il est sur le toit et puis il fait le samouraï.
Exactement. Alors, ça s'appelle Ghost Dog. C'est un film de Jim Jarmusch qui est un fabuleux film. Et qui.
Tu le mets ?
J'ai pas le droit de le dire, mais peut-être qu'on le verra pendant le cycle.
Il n'a rien le droit de dire, Alexandre.
C'est le visuel de l'affiche aussi que j'ai fait. Ouais.
Mais on n'a pas le droit de dire.
Peut-être, en fait. On n'a rien dit d'ailleurs. Tu n'as rien entendu. Personne ne. Je pense que personne ne regardera ce passage de l'émission. Tout va bien.
Qui commence à être un peu longue. Ouais. Alors, je vous quitte, mais on va continuer ensemble. Voilà, venez ici. C'est vrai qu'il y a, il y a un contenu, mais il y a un contenant et il y a un ton, en fait, pour le faire. Et qu'est-ce que tu veux encore, monsieur Weber ? L'adresse du site où on trouve le programme, on doit le trouver un peu partout. On vient ici un petit peu découvrir.
La médiathèque, évidemment, dont la nôtre. Et ensuite, il y a deux ressources. Le site d'Amilly, donc www.amilly.fr, que je ne me trompe pas, et sur Agoram, donc www.agoram.fr. Voilà, vous trouverez tout ça en ligne.
Et puis on reviendra un petit peu régulièrement les enquiquinés, ces deux-là qui n'ont le droit de rien dire, mais qui disent beaucoup quand même.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing, nous sommes toujours sur ces deux ailes. Et pour terminer cette émission, je vous propose un petit détour par la Puisaye, par Damary en Puisaye, plus exactement, un petit village que nous a fait découvrir Frédéric Nérault, le président de Tourisme Loiret, qui nous a emmené visiter notamment l'église de Damary en Puisaye, qui recèle quelques trésors. Allons-y.
C'est un superbe village qui possède des bâtiments médiévaux d'un grand intérêt, notamment un donjon et une grange aux dîmes. Et puis, l'église recèle de magnifiques fresques qui ont été laissées par un prêtre qui avait un sacré coup de pinceau. Ah bah voilà le maire de Damary.
Bonjour Nathalie.
Bienvenue à Damary. Je suis enchantée de vous recevoir aujourd'hui dans notre merveilleux petit village aux confins du département. Mais bon.
Nathalie, les charmes de votre village, c'est quoi?
Mais Frédéric a déjà tout dit. Donc un magnifique château, bon, qui certes a brûlé, mais il y a de très beaux restes et très bien entretenu par le propriétaire. Donc ça reste une propriété privée malheureusement, mais voilà, on voit de la rue pas mal de choses. Ensuite, c'est vrai, la grange aux dîmes, et puis notre église qui a été refaite entièrement lors du précédent mandat et qui contient de belles œuvres, de belles peintures.
Et puis côté patrimoine naturel, vous êtes fiers de vos chemins de randonnée.
Exactement, voilà. On a beaucoup de monde qui passe sur la commune pour faire des randonnées. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'on peut faire des kilomètres sans être sur la route. Et donc, c'est super, que ce soit à pied, à vélo, à cheval. On a aussi un petit centre équestre très sympathique sur la commune.
Voilà. Et puis des gîtes aussi, quand on veut rester plus longtemps qu'une journée.
Si vous voulez rester, vous pouvez venir à Damary et puis en même temps, eh bien, faire le tour des villages alentours. On a aussi Breteau avec ses étangs qui est splendide. Et puis aussi, aller retourner vers la Loire. Voilà.
Alors, vous m'emmenez tous les deux découvrir cette magnifique église et ses peintures hors du commun.
Exactement. Allons-y.
C'est parti. Ah oui, en effet.
Eh bien voilà les œuvres de l'abbé Galland, voilà, qu'il a peint à partir de 1936. Voilà.
Donc alors voilà, ce sont des peintures tout à fait contemporaines.
Oui, tout à fait. Donc elles sont sur châssis bois et elles font 3 mètres par 1,50 m chacune. Et il y a 12 œuvres en fait qui retracent la vie de la sainte patronne de l'église, Marie-Madeleine.
Et je sais, Frédéric, que vous adorez ces peintures.
Ah bah oui, franchement, elles ont un grand intérêt artistique. Ce prêtre était vraiment très doué.
Ça demande encore, un petit peu de restauration.
Oui,
c'est ça.
Oui, tout à fait. Donc, on a vu avec le département justement comment procéder pour faire un léger nettoyage afin de les remettre en valeur. Donc, on va certainement faire appel aux dons par le biais de la Fondation du Patrimoine pour les remettre en valeur et redonner de la lumière à ces tableaux qui ont un petit peu fadi avec le temps. Il a dû passer beaucoup de temps. Et les anciens nous racontent que l'abbé Galland, le presbytère était transformé en atelier de peinture. Donc c'était assez curieux quoi, pour un lieu tel que celui-là. Et voilà. Donc,
il est resté curé combien de temps?
41 ans sur notre commune et il est décédé à Damary, enfin à l'hôpital de Briard, et il est enterré à Damary. Voilà.
Il a peint jusqu'à la fin de ses jours?
Je suppose. Mais bon. Et en fait, cet abbé, il était très connu sur le secteur et il avait aussi des propriétés de sourcier. Donc, il était appelé à différents endroits, notamment même jusqu'à Pithiviers, pour pouvoir trouver des sources. Et il était aussi guérisseur. Donc, et aussi, il avait le don de pouvoir retrouver les gens. Donc, pas mal de familles ont fait appel à lui en 1940 pour retrouver des personnes perdues. Voilà.
Personnalité.
Nous étions Entre Loire et Loin. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à la radio sur C2L à 10h, comme chaque samedi. Et puis tout le reste du temps, sur les réseaux, sur notre page Facebook notamment. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Merci à toute l'équipe. Sandrine, Manteau, bien sûr, Patrice, Anita, JB. C'était Pascal Weber au micro et à la réal. Bonnes semaines à toutes et à tous. À l'écoute de C2L, bien sûr.
C2L.
Jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Auto-métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience.
On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence.
Oh non, 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 nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps,
passer nos vies sur une grille d'accord. Passer nos vies sur une grille d'accord.